Philippe Lely, un jour, un livre, un auteur. Chaque semaine, on se retrouve bon pied, bon œil, même si le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière et qu'on va continuer à évoquer cette semaine, c'est un sujet douloureux puisque c'est le deuil.
Voilà, mais qu'on vivra tous dans la vie. Personne ne passera au travail effectivement du deuil avec
Surtout quand on est immortel comme
Surtout quand on est immortel comme Diego Arrabal. Là, il a traversé beaucoup de deuil, effectivement. Bonjour Diego Arrabal.
Bonjour, bonjour les amis.
C'est toujours un vrai plaisir. Donc on va rappeler l'auteur avec qui on
Alors,
est cette semaine.
On rappelle donc qu'on était la semaine passée et à nouveau cette semaine avec Amélie Roulier, donc Navigation de nuit chez Pierre Tecky Éditeur. C'est un livre donc qui parle du deuil avec ce bandeau, un chemin de consolation face au deuil d'un frère. Et autant la semaine dernière, on a parlé de son livre, on a commencé à parler effectivement de la structure qu'elle a montée suite au chemin de deuil qu'elle a fait, Amélie Roulier, accompagnement du deuil. Donc aujourd'hui, on reprend avec elle. Bonjour Amélie Roulier.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous avez une phrase dans votre livre, moi, qui m'a beaucoup touché, à Manœuvre créative, au chapitre Manœuvre créative, page 79. Vous écrivez justement par rapport à la réponse que vous faites à Philippe Subercase. Je suis en congé maladie. Je tourne en rond. J'aimerais trouver une pompe à souffrance, outil magique qui extrairait mes douleurs comme l'aspirateur la poussière. Je cherche. Et c'est vrai qu'on aurait envie hein, de sortir la douleur de soi, on peut pas y arriver. J'ai trouvé cette phrase très très belle lorsque notamment aussi vous écrivez le fait de dire que ce que la bouche ne dit pas, le corps l'exprime, c'est-à-dire la somatisation, hein, des gens qui vont se bloquer le dos. On dit bien, on a d'ailleurs cette expression en français, j'ai mal au dos et j'en ai plein le dos, hein, ce qui n'exprime pas du tout effectivement la même chose. Et c'est cette somatisation. Et ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous montrez comment vous partez de très loin avec cette image hein, de la navigation de nuit, hein, où vous dites à un moment donné dans le chapitre Mayday, alors Mayday, hein, je rappelle en anglais, hein, Mayday, 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 hein, c'est l'appel d'urgence international. Voilà, hein, en bateau, en avion, etc., tout pour dire qu'on en a besoin. Donc vous l'intitulez Mayday pour dire que ben, vous êtes obligé de faire appel aux gens et que quelque part, c'est très violent de faire appel aux gens et de dire, écoute, je suis pas bien. Voilà, mon frère est mort. Et c'est comment vont réagir les gens? Est-ce que les gens sont capables, à un moment donné, de venir nous aider, y compris les gens par amitié? Parce que ben, ça demande une force terrible de pouvoir ben, appeler les gens, être présent, et puis d'entendre leur douleur. Est-ce que vous pensez qu'avec l'organisme, effectivement, là, que vous avez monté, hein, donc Amélie Roulier, accompagnement du deuil, vous pouvez faire ça aujourd'hui en ayant le recul nécessaire parce que ben, les personnes que vous avez en face de vous, ce n'est pas des personnes que vous connaissez, ce n'est pas des personnes pour lesquelles vous avez de l'amitié, ce n'est pas des personnes avec lesquelles vous êtes lié, comme le disait tout à l'heure Philippe Subercase, par le biais de la religion. Est-ce que là, quelque part, ça permet d'avoir le détachement nécessaire pour avoir l'objectivité nécessaire pour accompagner la personne au deuil?
Alors, je me suis formée à tout ça, j'ai appris à écouter. C'est une chose qu'on n'apprend pas du tout dans notre société, qui est un peu problématique. En ce moment, on parle beaucoup d'empathie à cause de tous ces événements très violents entre jeunes. Et l'écoute, c'est la présence, entre guillemets, ultime. C'est vraiment une manière d'être en relation qui fait que on est pleinement avec l'autre, on n'est pas du tout dans une recherche de solution, on n'est pas en train de sauver l'autre, et voilà, on est là, on laisse la personne s'exprimer. Alors moi j'ai appris à accompagner, c'est sûr, mais dans mes formations, je vais justement permettre aux participants qui sont des professionnels ou voilà, plutôt des gens qui sont pas concernés en tout cas, qui peuvent être concernés à l'échelle personnelle, mais qui ne sont pas concernés au niveau professionnel, d'expérimenter justement la puissance de l'écoute. Qu'est-ce que c'est de m'asseoir et d'être capable de vivre un silence dans une conversation. Ce qu'on n'aime pas du tout, on n'aime pas les silences dans les conversations.
C'est vrai.
C'est un peu honteux, ça met mal à l'aise.
Particulièrement Philippe Lely.
Oui, particulièrement moi. Je m'attendais à ce qu'ils le disent. Ouais.
On déteste tous le silence et on est dans une société où on ne sait pas, on sait pas le vivre, le silence. Et en fait, quand on est dans une conversation avec quelqu'un qui est en souffrance, le silence, c'est aussi ce moment qui permet à la personne d'intérioriser ce qu'on est en train d'échanger. Si on va trop vite dans la question, si on enchaîne les questions, si on enchaîne les mots, on laisse pas cet espace pour que ce qui est dans la tête ou dans le cœur sorte en mots.
J'ai envie de dire que le silence, alors vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, moi je sais, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai été à l'enterrement du papa d'un de mes amis, et j'ai pas eu de mots, quand je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras. Est-ce que vous pensez que le silence, c'est une étreinte invisible ?
Ça peut, oui. Je pense que prendre quelqu'un dans ses bras en lui disant rien, ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. Parce que finalement, il n'y a pas de mots.
Voilà. Mais vous ne pouvez pas le faire avec une personne que vous recevez. Par contre, le silence, c'est une étreinte invisible quelque part. Si on prend la personne, on la serre. Est-ce qu'on pourrait le définir comme ça, que le silence serait une étreinte invisible ?
C'est une très jolie. J'y ai jamais pensé, mais vous m'offrez une très jolie métaphore. Oui, clairement. Y a de ça, mais il y a aussi, pour moi, un profond respect du cheminement de l'autre. Je suis pas dans sa tête, je connais pas son histoire, je connais pas ses profondeurs, je connais pas son intime. C'est aussi offrir, d'une certaine manière, ce cheminement, ce choix de me livrer ce qu'il a envie de me dire.
Et au moment où il a envie de le dire, et peut-être...
Au moment où il a envie de le dire, voilà. Et pas d'être dans quelque chose de poussif ou quelque chose d'imposant. En fait, quand on considère que la souffrance, la mort, la douleur, etc., sont des problèmes, et qu'on arrive en disant... Là, tu devrais aller boire un pot, ça te ferait du bien, tu devrais aller nager, tu devrais aller t'acheter quelques habits nouveaux, tu devrais te maquiller, tu devrais aller faire du sport, tu devrais te reposer. Bah, en fait, on est en train d'imaginer les solutions que nous, on pourrait avoir pour nous à ce moment-là, dans cette situation-là. On se projette et puis et en fait, c'est pas du tout... En général, c'est pas du tout la bonne solution pour la personne qui est en face.
Qui pense ça. Philippe Subercase, vous avez un...
J'aimerais que, peut-être qu'on va conclure cette émission, j'aimerais bien, si c'est possible, de vous retrouver sur une autre émission, bien sûr, vous servant de votre livre, mais que vous nous donniez des conseils, parce que les gens qui nous écoutent et qui ont été victimes d'un deuil, j'aimerais bien que vous rentriez. Par exemple, moi, je franchis la porte, je porte un deuil. Comment vous allez me prendre en charge ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que j'ai l'impression des fois que parler, se livrer, échanger, c'est plus efficace qu'un antidépresseur ou un anxiolytique.
Ah, ça c'est un vrai sujet. Je pense que... Mais je pense que...
C'est pour ça que je
suis
avec. Ça serait bien que vous l'abordiez puisque vous avez fait une formation dessus.
Alors, oui, effectivement. Effectivement, l'antidépresseur, c'est un antidépresseur. Ça remplace absolument pas une écoute, et la puissance de l'écoute est très forte. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on écrit quelquefois, mais écrire, c'est pas la même chose que dire. Et parce que dans l'écriture, et je le dis encore plus aujourd'hui, quand on écrit un livre, on a des retours ponctuels, etc., mais on connaît pas du tout on ne sait pas qui a entendu, d'une certaine manière. Par contre, quand on dit à quelqu'un, il y a cette reconnaissance immédiate de ce qui est partagé. Évidemment, si l'autre ne dit pas, tu es sûr que tu souffres par ses mots et par ses gestes. Votre question, c'est qu'est-ce que je fais quand j'accueille quelqu'un qui est en
deuil. Ça serait intéressant peut-être pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que là, on parle, c'est très théorique, mais comment vous y prenez ? Comment on peut parler à quelqu'un qui est en deuil ? Alors, vous l'avez dit, c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est plus facile, le mot n'est peut-être pas le bon, mais vous êtes plus en compréhension le fait que vous-même, vous avez été touché par le deuil, le deuil de votre frère, hein, et que vous pouvez peut-être comprendre, vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous. Mais comment on s'y prend aujourd'hui dans cet accompagnement, dans ce que vous avez voulu faire, parce que vous avez quitté votre emploi que vous aimiez, ingénieur, avec de bons revenus derrière pour faire ça.
Mmh.
Qu'est-ce qui vous a... voilà, quel a été votre moteur pour changer de vie et puis pour aujourd'hui accompagner des gens et quelque part être toujours dans cet accompagnement, mais toujours dans cet univers lourd du deuil, quoi. Chaque fois que vous rencontrez une personne, elle ne vient pas vous raconter la dernière blague de Toto, quoi. C'est lourd, quoi.
Non. Je pense que ce qu'il me dit, c'est vraiment que je crois vraiment... Enfin, je crois à la puissance de la vie. Et je pense que, effectivement, quand on est présent à certains moments de l'existence, et notamment dans ces épreuves-là, on aide les gens à retrouver un chemin apaisé pour continuer leur vie. Et de voilà, et pour à nouveau se relancer dans des projets, etc., tout en respectant la temporalité qui est très longue dans le deuil. Et on règle pas les choses, et on règle d'ailleurs jamais certaines choses, mais offrir aux gens finalement cette
Est-ce que le deuil pour vous, ça serait, Amélie Roulier, la construction de l'absence de l'autre? J'ai l'impression, au travers de ce que vous nous dites, je comprends ça, que le deuil, c'est la construction acceptée de l'absence de l'autre. Est-ce que c'est exact ou pas?
Alors, je reprendrai les mots. Je fais partie d'une association qui s'appelle Apprivoiser l'absence. Et j'aime beaucoup cette expression-là, parce qu'on est vraiment là-dedans. Apprivoiser l'absence, c'est finalement j'intègre cette absence comme étant une part de mon histoire, et en même temps j'intègre un lien à l'intérieur avec cette personne. Dominique aujourd'hui, pour moi, il est présent, mais très différemment de ce qu'il a été quand il était là physiquement. Voilà, et c'est très apaisé. J'ai des petits pincements au cœur comme tous les endeuillés de la terre à certains moments, mais voilà, c'est apaisé en moi. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me freine dans ma vie personnelle, dans mes projets professionnels. Et du coup, je suis là aussi parce que j'ai eu ces lueurs, ces personnes qui m'ont accompagnée, que je suis allée soit chercher, parce que effectivement, je me suis fait accompagner, soit que j'ai rencontré sur la route. Mais c'est ça qui me drive dans mon projet. C'est, je sais que en agissant là, en fait, on agit sur toute la vie des gens derrière.
Mais je reviens sur ma question initiale. Je franchis votre porte, j'ai un deuil. Qu'est-ce que vous me dites au début? Qu'est-ce que vous allez me dire? Comment vous allez me prendre en charge?
Ah bah, la première chose, c'est que j'accueille la personne déjà en souriant. Ça, c'est mon première chose. Et déjà rentrer dans une explication de ma posture. Les gens sont... J'accueille les gens en leur disant que, voilà, ils sont là pour dire ce qu'ils ont besoin de dire. Il n'y a pas de jugement sur ce qu'ils vont pouvoir dire, que ce soit des émotions, un vécu, une expérience avec une personne de leur famille ou de leur entourage. Il n'y a pas de jugement. Et puis, après, au fur et à mesure, on va explorer la manière dont ils ont vécu le deuil, l'annonce du deuil, enfin l'annonce de la mort, le contexte, etc., qui est très différent d'une personne à l'autre. Le lien qu'ils avaient avec cette personne, c'est de la conversation, c'est du questionnement, c'est du dessin, c'est plein de choses en fonction des gens. Vraiment, tout est fait à la... C'est de la dentelle, en fait. L'accompagnement. Et ensuite, on regarde tout ce qui peut être de l'ordre du psychologique, du matériel, etc. On va rentrer dans les réalités concrètes. Et puis après, en fonction des gens, on va aller... Je vais questionner et je vais les guider pour qu'ils puissent poser certains pas, etc. Mais... Je vais faire une comparaison peut-être très maladroite, mais quand vous voyez un enfant qui naît et qui grandit, les premières années, il y a ceux qui marchent d'abord, ceux qui parlent après. chaque enfant est différent finalement. Dans un espace-temps, ils vivent des choses qui sont différentes, à des stades différents. Et en fait, un endeuillé n'est pas forcément un enfant, mais les prises de conscience, les mouvements intérieurs, les émotions, elles vont être très différentes d'une personne à l'autre. Il suffit d'une circonstance particulière pour réveiller une douleur, quelquefois. Donc voilà, la personne, elle arrive avec ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a vécu depuis la dernière fois que je l'ai vue. Et voilà, mais au tout début, effectivement, je pose ce cadre-là de il n'y a pas de limite. Et il y a aussi une chose très importante, c'est que moi, je suis accompagnatrice du deuil, je suis coach, mais je suis pas médecin, je suis pas conseiller conjugal, je suis pas thérapeute de couple ou autre. Et du coup, il y a aussi ce côté-là que je pose en disant s'il y a des choses de cet ordre-là qui arrivent, je vous proposerai sûrement d'aller voir quelqu'un qui a vraiment cette casquette spécifique.
Digoire Rabal, vous avez une question.
Oui, moi j'avais juste une question parce que dans ce que vous décrivez, on est dans une relation duelle, c'est-à-dire que il y a vous et il y a la personne en deuil. Ouais. C'est clair que c'était pas évident au départ. C'est bien qu'on ait commencé à creuser un peu comment ça se passe réellement, parce qu'on aurait pu imaginer que vous accueillez les personnes à travers un groupe de parole qui peut exprimer son désarroi, sa difficulté, etc.
Je fais les deux.
Là, vous faites les deux, d'accord.
Là, je vous ai parlé de l'accompagnement individuel.
D'accord.
Avec les groupes, le fonctionnement est à la fois identique et différent. Je pose les mêmes choses en termes de il n'y a pas de limite, on peut tout exprimer. Je vais travailler avec les attentes des gens qui sont là, parce que évidemment, chacun arrive avec une histoire différente et à un stade de deuil différent. Donc, il y a un moment d'expression où ils ont l'espace pour dire moi je viens pour cette raison là, voilà ce que je viens chercher. Et après on pose le cadre de la confidentialité, de du fait que les émotions peuvent s'exprimer, que les larmes c'est pas interdit, au contraire, que le respect pour les uns pour les autres, et puis le temps de parole qui est aussi doit s'ajuster pour que chacun ait une place et puisse s'exprimer et repartir en ayant cette sensation de s'être exprimé. Mais pour vous donner une petite idée, au dernier atelier que j'ai animé, j'avais 6 personnes en face de moi avec des contextes de deuil très différents, des âges aussi très différents, parce que la plus jeune avait une vingtaine d'années et la plus âgée, je pense, pas loin de 80 ans. Mais en fait, elles avaient, que des femmes, elles avaient toutes des attentes différentes. Mais après, ça, c'est mon rôle d'animatrice, pour le coup, de maturer au fur et à mesure de la journée qu'on va répondre aux attentes des uns et des autres. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai fait et que c'est devenu naturel pour moi, mais je l'ai appris. Au début de la rencontre, je leur ai projeté une image de bateau avec plein de personnages partout. Et il y en avait une grosse partie qui était en train de se noyer dans la mer. Et à la sortie, elles étaient la plupart avec des petits personnages qui se tenaient bras-dessus sur le bateau. Mmh. Ça veut dire que le cheminement, la compréhension, la réassurance jouent son rôle, en fait. On ne résout pas les problèmes en 3 heures ou en 8 heures.
Philippe Suberkaz.
Oui, par exemple, lors des consultations, est-ce que vous allez peut-être conseiller une personne d'aller voir un thérapeute, de lire tel ouvrage, parce que vous avez décelé que dans ce deuil-là, ça serait bien de lire un livre particulier. Sur une autre personne, ça sera un autre livre ou un thérapeute. Par exemple, il y a cette notion de MDR, par exemple, que font certains psychologues, qui oui. permettent, lorsque on a un traumatisme qui ne veut pas rentrer et qui est toujours en arrière-plan, d'essayer de l'apaiser à travers cette notion de MDR. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez conseiller ou pas, ou vous trouvez que c'est de la magie?
Oh, le MDR, c'est pas de la magie. Il y a deux choses qui sont de la magie, mais pas le MDR. Oui, mais bien sûr, parce que, en fait, de toute façon, je suis comme toutes les personnes qui accompagnent, j'ai des limites parce que je suis pas formée à tout. Et ça, c'est de l'éthique, hein, de la déontologie, tout simplement. Il y a des situations dans lesquelles, effectivement, ça doit faire appel à de la psychothérapie, parce que on rentre sur des choses qui sont très ancrées depuis l'enfance. Voilà, donc effectivement, mais c'est éthiquement ma posture de pouvoir réorienter ou conseiller d'aller voir même une sophrologue ou des gens qui vont agir plus sur le corps, etc. Bien sûr, et puis les lectures, oui, tout à fait. Mais une lecture, bon, ça peut être très utile dans certains cas, puis dans d'autres cas, c'est pas la manière dont la personne fonctionne. Il y a des gens qui lisent. On est peut-être là entre lecteurs, entre guillemets, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Donc c'est pas là où ils vont trouver la ressource.
Quel est votre livre d'ailleurs, peut-être, qui vous a, après le deuil, qui vous a permis de découvrir ce que vous êtes en train de faire, ou quel a été le ou les livres qui vous a permis d'avoir cette réflexion et ce changement de vie à travers le deuil de votre frère?
Alors...
Ou est-ce que c'est l'écriture du vôtre?
Ben, je veux dire, alors c'est peut-être plus l'écriture du mien, parce ouais. que j'ai beaucoup lu petite et j'ai beaucoup moins lu en étant grande, en étant adulte. Quand j'étais en deuil, j'ai bizarrement lu beaucoup de témoignages de gens qui avaient vécu une épreuve qui n'était pas une épreuve de deuil. Peut-être que j'avais peur de me confronter au deuil, en tout cas à ces moments-là, c'était plutôt au début. C'est plus des témoignages de gens qui sont partis à l'aventure. J'ai en tête le livre de Marine Barrières, j'ai pas le titre en exact, mais voilà, des gens qui vivent ou qui ont vécu une épreuve. J'ai beaucoup regardé les marins, ça c'est sûr. Dans leur expérience de la résilience, c'est plus de l'observation que de la lecture de livres qui m'a soutenue. Mais je sais très bien que bon, un certain nombre de personnes sont soutenues dans leur deuil par des livres théoriques. Beaucoup citent le livre notamment de Christophe Fauré, Vivre son deuil au jour le jour, que j'ai lu après, mais pas à ces moments-là. En fait, j'ai écrit mon livre vraiment avant de rentrer dans toute lecture théorique du sujet. J'ai tout découvert après.
On rappelle d'ailleurs, Amélie Roulier, on est d'un jour un livre, un auteur. Si on a des auditrices et des auditeurs qui prennent cette émission donc en cours d'émission, il y a deux émissions effectivement qui ont été faites avec vous, et on vous a invité donc Amélie Roulier pour Navigation de nuit, qui est un témoignage donc chez Pierre Tecky éditeur. On rappelle que Pierre Tecky éditeur, c'est un éditeur catholique qu'on a sollicité effectivement. On verra si on aura la possibilité de l'interroger un peu pour connaître la politique éditoriale de cet éditeur donc dans les années à venir. Et donc le bandeau que vous avez, c'est un chemin de consolation face au deuil d'un frère, c'est le livre effectivement, donc le témoignage effectivement que vous avez écrit sur le deuil. Et puis on rappelle quand même cette expérience forte, ça vous a amené donc à monter Amélie Roulier, donc accompagnement du deuil, qui est une structure aujourd'hui donc que vous dirigez, et puis comme le dit très bien le nom, qui fait de l'accompagnement au deuil, à la fois sur de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. C'était tout à l'heure la question que vous posez, Diego Arrabal. Voilà, donc il y a un site internet, si on tape Amélie Roulier accompagnement du deuil, on tombe sur votre site avec l'ensemble effectivement des prestations que vous êtes amené à faire. Moi j'invite les auditeurs, les auditrices, puisque on a fait ici sur présence pour préparer cette émission, ces deux émissions avec vous.
Et d'ailleurs ça peut se faire en visio, pour les gens qui, puisque nous on nous écoute là, mais est-ce que vous pouvez faire un
Oui.
accompagnement en visio?
Oui.
Oui.
Moi, je fais partie de la génération qui ça pose pas de problème.
D'accord.
Voilà, c'est vrai que oui. C'est vrai qu'avec la
après,
Covid, c'est la Covid aussi qui a fait ça. Il y a eu beaucoup de. Avant la
il y a
Covid,
ça.
ouais, ça n'existait pas et ça a existé à partir de la Covid, avec notamment des psychologues qui ont fait cela, oui, tout à fait.
Alors après, je le fais. Dans certains cas, certaines personnes ne veulent pas. Donc, voilà, ça, j'ai pas de souci. Mais effectivement, c'est possible pour
Oui,
moi.
parce que nos auditeurs qui sont dans le sud-ouest n'auront pas forcément la possibilité de se déplacer, peut-être une fois, mais pas régulièrement. Donc,
Voilà.
c'est intéressant d'avoir
Parce qu'on
cette
précise
notion.
qu'elle est sur Paris. On précise qu'elle est sur Paris.
Ah oui.
Donc,
Alors, non, non, pas du tout. Je suis à Rennes.
à Rennes, pardon, à Rennes.
C'est
Oula.
encore pire. C'est la diagonale par rapport
Mais
à Paris.
pour la petite histoire,
On reste à Montparnasse, hein, quand même, hein, depuis
oui.
tard. Ben.
pour la petite histoire, j'ai quand même une grande partie de ma famille, mes grands-parents notamment, qui ont vécu toute leur vie à côté de Naï, donc vous devez connaître.
Ah, ben voilà, là ça nous rapproche,
On
dis-leur.
est chez nous.
Voilà. Mon cœur est un petit
Ça nous
peu dans
rapproche. En tous les cas, Amélie Roulier, on rappelle le titre de votre ouvrage, Navigation de nuit, donc un très beau témoignage donc paru chez Pierre Tecky éditeur, hein, donc un chemin de consolation face au deuil d'un frère. Je rappelle également, on l'a rappelé tout au long de cette émission, hein, que ben ça a amené chez vous aussi donc eh ben à avoir, on va le dire, vous parlez tout à l'heure de posture, une nouvelle posture professionnelle, donc avec votre structure Amélie Roulier, accompagnement du deuil, on tape, vous tapez. Auditeurs et auditrices, Amélie Roulier, accompagnement du deuil, vous tomberez sur le site internet d'Amélie Roulier. Vous verrez effectivement toutes les prestations qu'elle a amenées à faire. Et puis, on va terminer hein, sur le fait que ben, vous allez faire bientôt une rencontre sur le deuil rue Victor Hugo. Et puis, je rappelle juste ce que disait Victor Hugo hein, dans ce super poème sur le deuil. Hein, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Et il l'a écrit pour sa fille Léopoldine.
Et
Voilà.
quand on parle de blanchi, mon cher Philippe, il suffit de voir vos tempes pour expliquer.
Voilà. Et j'invite les auditeurs à écouter la chanson des Frangines
Oui.
qui ont repris justement, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Amélie Roulier. Si vous ne l'avez pas écouté, vous tapez
Ah oui.
Les Frangines, donc Demain dès l'aube. Elles ont mis en musique le poème de Victor Hugo. Vous verrez, c'est superbe. Il y a une superbe vidéo, regardez-la, et notamment à la fin de la vidéo, elles arrivent sur la tombe de Léopoldine Hugo et de son mari, donc Julien Drouet. Voilà, si je me souviens bien, voilà, c'est Léopoldine Drouet et Julien Drouet, voilà, qui est une tombe qui n'est pas très loin, effectivement, de l'endroit où ils se sont noyés. Donc au 19e siècle. Voilà. Merci encore de nous avoir accompagnés, Amélie Roulier,
Je
Navigation
vous
de
en prie.
nuit, chez Pierre Tecky, éditeur. Et si vous sortez d'autres ouvrages, eh bien, écoutez, vous savez où on est, surtout vous nous tenez au courant,
Même si on est loin.
même si on est loin.
Parce qu'on est à côté de Nike quand même.
Je viendrai avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci
Merci.
beaucoup. Bonne journée à tous.
Merci,
merci
bonne
à
journée à
vous.
vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.